When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Aujourd'hui, on va vous parler du Project Nessie d'Amazon qui fixe les prix tout seul. On a aussi Twitch qui veut pardonner les streamers bannis à vie potentiellement. Et surtout, surtout, on a les annonces de la première conférence pour développeurs d'OpenAI. C'est parti tout de suite pour le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous tech. Je suis Patrick Béja, c'est le numéro 538 et nous sommes en novembre 2023. Je remercie très chaleureusement les patriotes qui, comme souvent en début de mois, sont nombreux. Nicolas Barou, Julien Mulot, Frédéric Face, Nono, Alex, Yumi, Maxouf, Maminaël et les producteurs Olivier Maury et Stéphane Lioret. Merci à vous tous et à vous toutes de permettre à cette émission d'exister par Patreon. Et pas forcément par Twitch, comme on en parlera un petit peu plus tard. Je suis un petit filou, moi aussi, comme Amazon. On vous donnera des détails sur ça dans un instant. Mais merci à vous tous, merci aux producteurs, merci aux patriotes, sans qui cette émission n'existerait pas. Ils et elles vont sur patreon.com/rdvtech pour soutenir financièrement et je leur en suis éternellement reconnaissant. Je suis également éternellement reconnaissant au magnifique Cédric Deluca qui se joint à moi pour cet épisode. Bonjour Cédric, comment vas-tu ?
Bonjour Patrick, ça va et toi ?
Écoute, moi je suis en forme, je suis content d'être là, on a des sujets cool et j'imagine que tu auras des choses à dire au moins sur certains d'entre eux. On a des sujets donc qui vont être intéressants. On parlera de ChatGPT et de OpenAI comme troisième sujet important. Entre-temps, il y a des sujets intéressants qu'on va couvrir également. Mais je voudrais vous dire plusieurs choses. D'abord, si vous me suivez depuis un moment et que vous êtes un ancien d'Azeroth.fr, vous avez sans doute une affinité particulière avec World of Warcraft. Je vous recommande d'écouter le rendez-vous jeu de cette semaine qui sortira jeudi, où on va parler de la BlizzCon qui a eu lieu ce week-end. Et il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur World of Warcraft. J'avais une relation un petit peu compliquée avec Blizzard, qui est une boîte dans laquelle j'ai travaillé, hein, vous vous en souviendrez peut-être. Et bah, on a des choses à dire, on en parlera dans le rendez-vous jeu, mais ça sera jeudi. Si vous n'écoutez pas souvent le rendez-vous jeu, peut-être que celui-là sera un épisode qui pourra vous plaire, puisqu'on va parler de ces sujets qui nous rappellent des souvenirs, bons ou mauvais, à tous. Donc ça sera le rendez-vous jeu jeudi. Je veux également signaler plus proche du rendez-vous tech que les codes Blue Sky, dont je parlais depuis un moment. On a un petit channel de distribution de codes Blue Sky sur le Discord. Eh bien, il commence à arriver. Les gens qui en ont reçu reviennent en mettre. Donc, tu en as distribué quelques-uns. Il y en a pas mal. Et il y en a même quelques-uns qui trouvent... Enfin, je crois qu'ils trouvent tous preneurs, mais il y en a qui ne trouvent pas preneurs en 14 secondes, comme c'était le cas jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc, si vous cherchez encore des codes Blue Sky, vous pouvez venir sur le Discord. Le lien est dans les notes de l'émission, évidemment. Et on a ce channel pour la distribution. Il n'y en a pas pour tout le monde, hein. Mais il y en a quelques-uns pour les auditeurs sympathiques. Et puis, je pense qu'on peut se lancer dans les sujets principaux de l'émission, les sujets à retenir, avec le premier sujet, Amazon qui fixe les prix tout seul. Enfin, Amazon, c'est des petits filous hein, quand même. Ils ont un algorithme, en fait, qui fixe les prix de certains produits et qui passe un accord avec les concurrents d'Amazon pour ne pas les baisser sans que les concurrents soient au courant. J'explique. En fait, on parle du projet Nessie, Project Nessie, qui est un projet qui a été mieux connu avec le procès de la FTC contre Amazon, qui l'accuse de pratiques anticoncurrentielles. Et le projet Nessie, c'est l'un de ces points de contentieux puisque c'est un algorithme qui a été utilisé pendant plusieurs années, qui était sur le point d'être ravivé, semble-t-il, c'est pas tout à fait clair, mais qui a fait gagner à Amazon 1,4 milliard de dollars, selon les estimations de diverses entités. Alors 1,4, c'est pas énorme, mais c'est le fonctionnement du projet Nessie qui est intéressant. C'est un algorithme, en fait, qui, sur certains produits Amazon, va aller monter les prix, et puis il va aller surveiller si les concurrents réagissent. C'est-à-dire que dans le monde du commerce en ligne, on le sait, c'est un petit peu le Mexican stand-off permanent. Vous savez, c'est ce truc de western où il y a plusieurs personnes qui se regardent tous avec un flingue pointé vers certains d'entre eux et on a peur qu'il y en ait un qui tire et s'il y en a un qui commence à tirer, tout le monde se met à tirer. Bah là, c'est pareil avec les prix. Quand il y en a un qui monte les prix, tout le monde regarde ce qu'ils font, et surtout Amazon, qui est le plus gros acteur de l'industrie, tout le monde regarde ce qu'ils font, et quand ils montent les prix, bah, les autres peuvent éventuellement monter les prix, ou alors, quand ils baissent les prix, les autres peuvent baisser. Ou alors, il y en a d'autres qui peuvent baisser les prix pour être moins chers que les prix sur Amazon ou chez les concurrents, et attirer des clients. Ou alors, si quelqu'un d'autre monte les prix, bah, on monte pour gagner plus d'argent. Et ce que fait l'algorithme de Projet Nessie, c'est qu'il sait qui est susceptible de monter, de descendre les prix. Il monte les prix sur Amazon pour voir. Si les autres suivent et ne descendent pas leur prix ensuite, eh ben Nessie garde le prix sur Amazon à un niveau élevé. Si les autres descendent le prix, eh ben Nessie va redescendre le prix sur Amazon aussi pour ne pas se faire dépasser. Et
exactement.
En soi, ce n'est pas vraiment problématique. Enfin, ce n'est pas illégal, je crois. Mais ça ressemble quand même, si on plisse un tout petit peu des yeux, ça ressemble à une sorte de discussion d'accord entre plusieurs concurrents pour fixer les prix. Ce qui là, s'il y a un accord pour fixer les prix, bah, c'est complètement illégal. Sauf que là, en fait, il y a cette sorte d'accord sans que... Enfin, ils surveillent automatiquement, de manière algorithmique. Ils pourraient le faire à la main, hein, mais c'est beaucoup moins facile et c'est moins rapide. Et du coup, c'est comme s'il y avait un accord. C'est les mêmes effets, en fait, que s'il y avait un accord, sauf qu'il n'y a pas d'accord. Du coup, je ne sais pas, enfin, je ne suis pas avocat, je n'ai pas l'impression que ça soit sur le papier, en fonction de la loi telle qu'elle est établie aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ça soit illégal, mais quand même, ça a des relents d'illégalité. Je ne sais pas comment... Qu'est-ce que tu en penses, Cédric?
Oui, je me souviens.
Cet algo.
En fait, la problématique que ça touche, c'est simplement, en fait, l'étude de la concurrence et du marché. C'est pas illégal. Ce truc-là n'est pas du tout illégal. Et d'ailleurs, spoiler alerte, il y a sans doute des vendeurs tiers sur Amazon qui utilisent eux aussi des algos qui vérifient justement les prix du catalogue et qui eux aussi adaptent les prix automatiquement. Des fois, c'est quelques centimes, c'est quelques machins. On le voit souvent si vous avez des choses dans votre panier ou vous avez des petites notifications sur Amazon qui vous disent « Ah, l'article a baissé de 80 centimes ou de 12 centimes, etc. » En fait, c'est lié à ça. Et c'est lié, en fait, non pas que à Nessie. C'est-à-dire que Nessie, on le voit parce que Amazon a dû mettre le paquet et il doit être... et en plus, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils ont accès à tout le back-office. Donc, en fait, ils peuvent même savoir si les gens ont du stock ou pas du stock. Et c'est là qu'il y a une petite limite. Mais dans les faits, aujourd'hui, tu prends, je ne sais pas moi, je vais prendre l'exemple des supermarchés. Il y a des gens qui font des relevés de prix, tout simplement, chez les concurrents. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Ils rentrent dedans, ils font un relevé de prix de concurrence, ils notent tout ça, puis ils retournent dans leur magasin, ils disent « bon, ben là, ils ont augmenté les prix sur ça, sur ça, sur ça. Si on veut faire plus de marge, ben, on se met 10 centimes en dessous et on augmente les prix. » Et ils n'ont pas du tout passé d'accord entre eux. Et pourtant, artificiellement, les prix sont montés. Et inversement, quand les prix descendent, pour ne pas se faire concurrencer, oula, je descends les prix. En gros, ils ont juste automatisé les relevés de prix. C'est simplement ça.
Parce que la pratique en elle-même, quand elle est analogique, elle nécessite suffisamment de boulot pour que ça ne soit pas trop désavantageux pour le... Au contraire, c'est même la concurrence qui joue. Ouais. Là, j'ai l'impression que l'automatisation pervertit le truc. Quoi.
Ouais. Mais en fait, Nessie est au relevé de prix et à la concurrence commerciale, ce qu'est le micro-trading ou le fast-trading pour le trading où avant, tu avais des traders qui faisaient des passés des opérations à la main. Maintenant, c'est des logiciels, en fait, qu'ils font pour eux, tu vois. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est Enfin, en plus, moi, je travaille dans une école qui est sur la transformation numérique. Donc, si tu veux, pour moi, c'est pile le sujet. Et j'ai des étudiants qui, d'ailleurs, ont travaillé sur ces sujets-là d'automatisation, justement, de placement de produits sur des marketplaces. Et donc, en fait, bah, c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire que comme l'IA t'aide aujourd'hui à générer du texte, des images, etc.,
ouais, c'est bah, ce le que sens de l'histoire, dire, c'est
le métier fastidieux le... d'aller relever les prix.
C'est, bah, c'est le chat GPT voilà. Pour les trolls Twitter, quoi. Il peut générer ouais, le truc algorithmiquement.
C'est ça. C'est exactement ouais. Ça. Donc, tu vois, on est dans cette transformation. Alors, qu'on l'accepte ou pas, c'est autre chose. Mais on est dans une accélération du changement liée justement à la facilité aussi de l'accessibilité de la donnée ou même de la facilité de programmer ce type d'algo, etc. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en même temps, ça crée des business. Ah, évidemment... Les gens qui faisaient des relevés de prix, ça va leur enlever entre guillemets un job. Mais je ne suis pas certain que le job releveur de prix soit vraiment un vrai job sur lequel tu puisses postuler. C'est oui. Souvent une tâche qu'on donnait à un commercial en disant « Bon, tiens, toi, tu n'as rien
non,
à
non,
faire. »
Bien sûr. Enfin, là,
au lieu de balayer la boutique, tu vas aller chez le concurrent et tu vas noter ouais. Le truc. Tu vois. Voilà. C'est vraiment
c'est,
ça.
C'est hyper intéressant parce que ça pose vraiment la question d'une pratique qui n'est pas illégale et même qui est complètement… qui fait jouer la concurrence. Quoi. En analogique, une fois que tu l'as numérisé, étant donné que ça va a priori nuire aux clients, c'est ça le problème de la FTC, c'est qu'ils se disent mais Amazon oui, enfin et en même temps l'idée que Amazon implémente ce genre de processus c'est complètement logique, c'est la le comment dire la suite logique de ce qu'ils font depuis un moment et Amazon comme on le dit souvent ils sont en board meeting tu vois chez eux et puis ils se demandent bon est-ce qu'il faudrait qu'on le fasse ou pas puis il y en a un qui se lève et qui dit. Et donc, ils se disent « Ok, bah, on va le faire. » De la même manière que, avant le lancement de l'enregistrement, je disais « Mais moi aussi, je suis un filou quoi, avec Amazon parce qu'on utilise Twitch et Twitch, ils se font de l'argent. » Bon, alors, avec la pub, je ne mets jamais de pub dans les streams.
On aime l'argent.
Et moi, je me dis « Mais j'aime l'argent. » Et je ne mets jamais de pub dans les streams. J'utilise pas, j'encourage les gens à aller sur Patreon plutôt qu'avec les subs sur Twitch. Enfin, j'utilise leur service gratuitement et bon, c'est normal, hein, je suis dans les clous, hein, bien sûr. Mais, enfin, c'est un truc de filou, quoi. Et là, c'est un truc de filou.
Ah oui.
Et je sais pas si c'est plus grave, quoi. Est-ce que c'est grave au final ? Je sais pas. C'est la question à laquelle il faut répondre et à laquelle les.
Oui. Tant qu'on a la maîtrise du truc. Ouais, tant qu'on a la maîtrise du truc et que. Il n'y a pas de on s'amuse. En fait, le problème, c'est que Amazon sait si les gens ont des stocks ou pas. Et le jour où les vendeurs tiers n'ont plus de stock, ils peuvent monter les prix en se disant je suis le seul à en avoir. Du coup, bah, je vais les vendre plein pot et je vais me faire grave de marge.
Alors là, c'est pas ça, cet algo, c'est pas ça que ça concerne. Hein. Mais je suis sûr qu'ils peuvent faire ça par ailleurs aussi.
Bien sûr.
Enfin, ils peuvent. Bien sûr. Pense que ça serait. Il y aurait une question légale là-dessus aussi. Est-ce que c'est autorisé ou pas ? C'est avantage anticoncurrentiel si tu utilises
clairement,
ce genre d'info.
Je ne serais pas étonné que Nessie ait dans ses fonctionnalités cette partie-là, en fait. Peut-être. Ça ne va pas être un autre algo. Hein. Mmh. Au moins, en fait, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il fait cette négociation de prix, en gros. Enfin, de prix. Pas vraiment une négociation de prix, mais en gros, c'est lui. Il observe le marché et il place les prix automatiquement, etc. Et il peut être un algo... extrêmement puissant chez Amazon, hein, hébergé chez AWS, évidemment, mais en utilisant tous les systèmes d'intelligence artificielle qu'ils ont et compagnie. Donc, il doit être extrêmement puissant et beaucoup plus rapide que ce qui peut être programmé ou acheté sur étagère à un vendeur tiers, etc. Enfin, pour les vendeurs tiers. Mais tu vois, spoiler alerte, ce système doit déjà exister sur Cdiscount, Castorama, Leroy Merlin, enfin, toutes les plateformes d'un marketplace, en fait. On ne va pas se mentir. Alors, jusqu'à présent, les marketplaces pour Castorama et Leroy Merlin en particulier, ça leur permettait d'avoir au catalogue des produits qu'eux-mêmes ne vendent pas. Donc là encore, on est sur la marketplace, on va dire, qui est sympa pour le consommateur, quoi. Mais par contre, quand on est Cdiscount, par exemple, et qu'on vend un MacBook Pro, eh ben, le même MacBook Pro peut être vendu par un vendeur tiers sur la plateforme Cdiscount. Et c'est là que Cdiscount peut jouer avec les prix, comme le fait Amazon, finalement. Et ce truc existe. C'est-à-dire que ces logiciels-là, en fait, existent et sont déjà utilisés dans plein d'autres boîtes. Le seul truc, c'est jusqu'où va Amazon ? Et je pense que la FTC, en fait, c'est vraiment ce truc-là. C'est jusqu'où va Amazon dans dans la gestion de sa relation à sa concurrence interne, parce qu'on sait qu'en fait, il y a le partage des revenus du marketplace, ça, c'est un sujet où tu en as déjà parlé dans des épisodes précédents, etc. Mais en fait, ça s'ajoute à ça, en fait. Et c'est là, en fait, que ça pose un problème, c'est que non seulement ils font de la distorsion de concurrence en permanence, mais en plus, ils ajoutent un algo qui va jouer sur les prix sans arrêt, quoi, en fait. Et je pense qu'en fait, il y a des vendeurs qui s'en plaignent, quoi. Voilà.
On va voir donc ce que donne ce procès, qui d'ailleurs est plus large. Hein. Le procès de la FTC est plus large que simplement le projet Nessie. C'est un très, très gros, une très, très grosse action de la FTC. Donc, on verra jusqu'où ils vont et les autres infos peut-être que ça mettra au jour, que ça nous fera connaître.
Révélera au jour.
Oui, ouais. Voilà, c'est ça.
Mettra au jour.
Voilà. Entre parenthèses, les autorités qui tapent des pieds, des mains avec des grosses sociétés, t'as vu la défense de Apple par rapport à l'idée que le Safari, le browser, le navigateur Safari rentre dans le cadre du DMA comme entité gatekeeper, gardien de marché. En fait, Apple disait... oui, mais non, en fait, parce que c'est au nombre d'utilisateurs. Et l'Union européenne disait, bon, bah, Safari, vous avez X millions d'utilisateurs, donc vous rentrez dans le cadre d'un gatekeeper. Et Apple a dit, ah non, en fait, Safari, non, en fait, ah, mais pardon, vous avez mal compris. Vous avez, en fait, Safari sur iOS et sur iPad et sur macOS, c'est pas le même. C'est pas le même Safari, donc il faut les compter comme trois Safari différents. Donc voilà, donc en fait ils sont pas, c'est très très drôle, je vous mettrai un lien dans la newsletter.
Vous
sur
l'utilisez mal.
Alors que même dans leur...
mal, c'est pas le même, voilà, c'est ça.
Dans leur propre pub, ils disent ah c'est ouais. Safari different
la
device.
Même expérience sur ouais c'est ça, c'est la même expérience que sur son ordinateur. Mais en fait, est-ce que avoir la même expérience veut dire que c'est le même produit?
Ah bah peut-être.
Finalement,
pas,
une voiture avec quatre roues et un volant. Qu'elle soit Tesla, qu'elle soit Hyundai, Ford, Peugeot, ça reste la même expérience.
Ah oui. Donc, tu as raison.
Roule.
Donc, tu as raison. Safari, c'est
finalement.
Pas le même. Bon, évidemment, bah, l'Union européenne a dit... Alors, comment vous dire? Comment vous expliquer? I call bullshit, Apple. Team Apple. Donc, c'est voilà
ça.
Pour...
Non, mais peut-être qu'ils vont changer les noms, du coup. Ça sera Safari sur macOS, ouais. Ça sera... Exploration sur iPhone, tu vois. Enfin...
Expédition sur iPad, c'est ça.
Ouais, en fait, c'est un mec qui met juste un masque à chaque fois. Il dit « Ah non, je ne suis pas la même personne.
» C'est pas moi, comment ? Quoi ? Safari ? Je ne connais pas. Je ne vois pas. Deuxième sujet, désormais sur Twitch, il y aura ban définitif et ban def. Vous entendez les guillemets. En fait, Twitch veut donner aux streamers bannis à vie la possibilité de faire lever leur peine. Et je crois que c'est une bonne chose. Ça dépasse un petit peu Twitch, en fait.
Ouais.
J'explique. En fait, Twitch a décidé de donner aux streamers qui ont été bannis à vie la possibilité de faire réexaminer leur cas pour revenir sur Twitch après avoir, en quelque sorte, purgé leur peine. La décision n'est pas garantie, hein, mais il y a aujourd'hui, il va y avoir, d'ailleurs ils l'ont mis en place, un processus pour faire étudier leur cas. Si vous avez déjà des crises de panique en vous disant que les ordures totales de Twitch vont pouvoir revenir, en fait, ils ont précisé, non, quand il y a des cas sévères, des problèmes de dommages importants qui ont été faits, on ne prend pas en compte cette demande, ce n'est pas pour ces gens-là. Et évidemment, Twitch a certainement des motivations du genre, on va l'utiliser beaucoup aujourd'hui, du genre parce qu'on sait qu'ils sont un petit peu en difficulté par rapport à leurs concurrents et même par rapport à eux-mêmes, donc ils doivent se dire, ok, on a banni plein de gens, peut-être qu'on va leur donner la possibilité de revenir. Mais malgré tout ça, je pense que l'idée est intéressante parce qu'au-delà de Twitch même, la décision pose un peu la question de la sévérité des sanctions sur les réseaux sociaux et sur les services qu'on utilise. Parce qu'on se demande, est-ce qu'il peut y avoir, il devrait y avoir des bans irrévocables à perpétuité ou alors, Enfin, est-ce qu'il devrait y avoir pour ces services des bannes irrévocables à perpétuité? Ou quand on compare avec la vraie vie, bah, les punitions sont moins sévères. Je veux dire, si on fait un crime, un vrai crime, on va peut-être avoir une amende, une peine de prison, mais on va finir par sortir, par être réhabilité. Est-ce que c'est comparable de dire comparer la vraie vie et un service dont peut-être on peut se passer? Est-ce qu'on peut se passer de ces services aujourd'hui? Enfin, ça fait plein de questions, mais vraiment pour moi, la question que pose cette décision, c'est est-ce que c'est raisonnable de, d'avoir ces bans définitifs quand tu as fait une connerie et que tu puisses plus jamais revenir? Donc, il y a un petit peu ces aspects.
Bah, en fait... Oui, alors je lis dans le chat Naiden qui dit « On sent que Kik est passé par là ». Oui, évidemment.
Oui, c'est ce que je disais. Oui.
Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que tant que Twitch était, entre guillemets, seul et qu'il tenait aussi ses créateurs avec pas possibilité de diffuser sur YouTube en même temps, etc. Bon, je vous avoue que je l'ai fait, hein, même en étant Twitch partner et j'ai jamais rien eu. Je respectais pas le contrat. Mais le fait en fait
filou,
que
toi aussi, tout le monde, il y a que des petits filous ici, c'est fou.
J'aime l'argent, en fait. Mais le fait qu'en fait, voilà, il soit plus en position, j'allais dire, de monopole. C'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment monopole, mais en tout cas, l'après-Covid a montré que la plateforme en fait avait de la concurrence en fait. Et puis surtout, les contenus ont les modes de consommation ont changé. C'est-à-dire que l'âge d'or de Twitch, c'était le confinement. Très sincèrement, c'était l'âge d'or de Twitch, surtout, que ce soit sur les revenus pour les créateurs, que ce soit sur les contenus produits, le nombre de streamers, etc. Aujourd'hui, en fait, on n'est plus du tout là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens sur TikTok, sur Insta, etc., qui consomment du contenu tous les jours. Regardez combien de contenu Twitch vous consommez par jour versus combien de contenu Insta ou TikTok vous consommez par jour. Et là, il n'y a juste pas photo, en fait. Ou même de vidéos YouTube. Je suis sûr que sur la semaine, vous avez peut-être vu plus de vidéos YouTube, en tout cas pour certains. Hein. Évidemment, on ne peut pas faire d'un cas particulier une généralité, mais en moyenne, il y a beaucoup plus de contenus qui sont regardés par les gens, de manière globale, ailleurs que sur Twitch. Et en fait, la problématique, c'est que Twitch aussi s'est donné cette image de... un peu comme le Twitter d'avant Elon Musk, c'est-à-dire... nous, on est vraiment, on défend tout le monde. C'est-à-dire qu'on est on veut créer un espace de bienveillance où tout le monde se sent bien. Il n'y a pas de place pour entre guillemets la polémique ou même pas de place tout simplement pour. On respecte la loi. On va même au-delà de la loi. Quelqu'un qui prononce des mots interdits, qui dit des choses qui tombent sous le coup de la loi, nous, on les banne def. Mais comme tu le disais, en fait, c'est-à-dire que dans la vraie vie, tu payes ton amende ou tu fais de la prison, imaginons, tu dis vraiment un truc très très grave et tu finis en prison. Mais une fois que t'as purgé ta peine, normalement, t'es réhabilité. Alors, ça ne veut pas dire que quand tu sors, t'es meilleur. Hein, mais en fait, t'as payé pour ça. Et donc, le ban dev, par contre, c'est tu prends perpète, direct, en fait. Et quel crime mérite la perpétuité? Tu vois, en fait, c'est ça le truc.
Entre parenthèses, même la prison à perpétuité, c'est généralement 20 ans, je crois, en France,
c'est ça.
Avec un réexamen possible.
Oui, après, il y a des réhabilitations de peine, il y a plein de trucs.
Le
etc.
pire crime que tu puisses commettre t'envoie en prison pendant 20 ans. C'est pas toute ta vie, c'est 20 ans.
Bien sûr.
Et bien sachant qu'il y a des gens qui vont dire oui, ça va, Twitch, t'en as pas besoin pour vivre, c'est pas la même chose que. Allez, évidemment,
alors, oui, mais.
La comparaison
en fait,
est boiteuse.
Oui, sauf qu'on te prive quand même d'une liberté, celle d'utiliser un service en ligne. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, même si ce n'est pas la prison, même si ce n'est pas essentiel à ta vie ou j'en sais rien, mais n'empêche que si demain tu veux produire du contenu et tu étais connu, en fait, on te prive d'une liberté de t'exprimer sur une plateforme qui servait ton business à la base. Tu vois, si demain tu es ban dev de Twitch, alors évidemment, t'irais sur YouTube, t'irais ailleurs, mais quand même, on te prive d'une plateforme, de ta liberté de t'exprimer sur une plateforme.
Bah ça reste une privation de quelque chose. C'est même plus qu'une plateforme. La plateforme par défaut de diffusion en direct aujourd'hui, c'est Twitch. Donc, évidemment, c'est pas une décision légale de loi, machin, mais on pense, là, on est en train de réfléchir avec Cédric aux conséquences et à la gravité, enfin, la gravité de la peine sur les conséquences que ça peut avoir. Et pour des gens qui sont des créateurs de contenu, les conséquences, effectivement, peuvent être importantes, quoi. Même si ce n'est pas la fin du monde d'être banni de Twitch, bah, ça dépend. Aujourd'hui, il y a une économie, une certaine industrie qui se repose là-dessus. Donc,
Oui, clairement. Donc, il y a... Je suis partagé quand même sur la question. Hein. On pourrait presque lancer le jingle de l'avocat du diable. Mais quand on voit que Trump, par exemple, est revenu sur X, enfin, en tout cas, il est revenu. Non, il n'est pas vraiment revenu, mais on va dire que...
Ah bah si, maintenant, il est revenu.
Il tweet rien. Enfin, par rapport à ce qu'il tweetait avant, ça n'a rien à voir, en fait. Il a commenté son procès récent, là, etc. Mais il a posté son mugshot, je crois, dessus, quand il s'est fait arrêter, mais l'idée, c'est qu'en fait, il a été réhabilité en disant ben non, on ne va pas bannir sous. Ben justement, le prive de la liberté de s'exprimer, ce qui est important aux yeux d'Elon Musk, sur une plateforme, en fait, qui est, même si elle n'est pas publique, en tout cas, elle est un média, en fait, de communication. C'est-à-dire que tu le disais, je crois, dans le dernier rendez-vous tech, où tu disais que X-Wire pour les communiqués de presse, etc. Enfin voilà, qu'on était vraiment sur cette. J'écoute tous les rendez-vous tech, Patrick. C'est pas que je peux le dire. Hein.
Les gens bien le font. Mais oui, non, mais c'est sûr. Ça la question, en fait.
Voilà, la question de fond, c'est ça. Est-ce qu'on peut bannir définitivement quelqu'un d'un service ? Est-ce que peut-être on ne devrait pas faire finalement la même chose que dans la loi, en fait ? Tu vois, typiquement, propos racistes tenus en place publique, c'est tant d'amendes. Bon, alors là, évidemment, c'est s'il y a plainte, etc. Mais en tout cas, c'est, je ne sais pas moi, interdiction, je sais pas, de radio, de télé pendant 5 ans. Ok, tu es banni de Twitch pendant 5 ans. Mais dans 5 ans, ton compte revient. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire le ban dev, pour moi, c'est quand même le truc le plus extrême. Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, il ne sert pas de leçon. C'est-à-dire que les gens vont ailleurs, mais continuent à tenir les promos, et voire même... Ça sert leur cause. C'est-à-dire, ben, voyez, en fait, on veut me faire taire alors que je dis une vérité qui dérange.
Disons que...
Tu vois, c'est vraiment ce truc-là.
Quelqu'un qui se fait ban 5 ans, il va aller ailleurs aussi. Hein. Peut-être qu'un mois, tu peux dire, je vais prendre des vacances.
Mais non, mais en fait...
On nous dit dans la chatroom... Oui, je comprends ce que tu veux dire. On nous dit dans la chatroom, c'est une plateforme privée, t'enfreins les règles, t'es puni, voilà. Bah oui, bien sûr. Mais, et la comparaison avec la loi, évidemment, c'est limite. Hein. La plateforme est privée, elle établit ses règles et elle peut établir les règles, dire bon, bah...
Ah, mais elle tombe sous le coup de la loi, elle.
Ah, bien sûr,
si elle laisse passer des choses comme ça, c'est elle qui tombe sous le coup de la loi. Et en fait, pour éviter tout problème et peut-être que le service juridique de Twitch soit le service qui emploie le plus de personnes versus les développeurs, etc., ils préfèrent blinder les conditions générales d'utilisation de service pour être sûr que on se contente d'avoir 100 avocats, quoi, mais pas plus. ça coûte moins cher.
On nous demande aussi, par exemple, est-ce qu'un méga shadowban sur la plateforme serait pas plus efficace ? Oui et non, ça dépend. Le shadowban, pour ceux qui savent pas, c'est le fait de ne pas bannir une personne, mais de ne plus la faire mettre en avant par l'algorithme. Donc, en gros, tout à coup, tu as beaucoup moins de visibilité, etc. Je schématise. Mais
Pikachu fait une remarque intéressante aussi.
Il dit
ça a bien marché pour Trump.
Vas-y.
Ça a bien marché pour toi, mine de rien, quand il était sur Twitter, on l'entendait beaucoup moins, tu sais, quand il a été ban. Ouais. Ben en fait, moi, je trouve qu'il y a un problème, c'est qu'en fait, maintenant, tout le monde connaît, ou quasiment tout le monde connaît le nom, enfin, tout le monde, dans la sphère tech, en tout cas, connaît le nom de son application, le Truth Social qu'il a lancé, en fait. Ça fait une énorme pub pour sa plateforme. Ouais. Alors, je dis pas qu'elle a décollé ou quoi que ce soit, mais n'empêche que ça l'a servi. Mmh. C'est-à-dire que cette impossibilité d'utiliser X l'a servi.
Non, mais, disons que,
vois, en fait, il y a toujours les deux...
Bien sûr, il y a les deux côtés, il y a le revers de la médaille et les conséquences du truc. Je dirais que sur le principe... Oui, pour revenir sur le shadowban, les gens qui ont déjà une grosse communauté, en fait, ça ne change pas grand-chose parce qu'ils peuvent toujours utiliser le service et les gens qui ont une grosse communauté, leur communauté va les trouver quand même. Donc le shadowban, c'est encore un autre problème, mais même si ça peut avoir des conséquences. Mais ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est vraiment cette question du principe de ban dev, parce que je crois que les premières années de ces discussions internes et de ces réflexions, on se disait, il y a le truc ultime, c'est ban dev, mais les services avaient 2, 3, 4, 5 ans, donc on ne se disait pas, est-ce que ban dev, ça va durer 20 ans, quoi, on n'y pensait pas. Aujourd'hui, on se pose cette question. Et pour moi, pour répondre clairement, je pense que les bans définitifs sont trop sévère et que il faudrait des moyens, au minimum un moyen de faire appel, une fois ou pas de faire appel ou de faire une demande de réexamen, Et le problème, c'est que pas mal de ces réexamens vont passer par des trucs automatisés. On va vous répondre « Désolé, vous ne rentrez pas dans les trucs et tu n'auras pas de, peut-être de moyens de faire plus. » Mais le principe de se dire « Tu peux demander un réexamen », ça me paraît plus juste que le fait de dire « Bon, ben voilà, c'est terminé à vie. » Et je pense que c'est quelque chose qui devrait avoir se généraliser pour Twitch et pour d'autres. Et c'est Twitch qui décide. C'est-à-dire qu'on peut demander...
Ouais, en fait, il faudrait...
Et le système eux, idéal, après, ils vont décider s'ils révoquent ta punition ou pas.
Mais en fait, presque le système idéal, ce serait... si Twitch, par exemple, dit bah, « Nous, on est pour vous réhabiliter », ça serait que, limite, en fait, ils tirent au sort parmi tous les gens qui produisent du contenu sur Twitch, tu vois, les Twitch partners, en disant « Est-ce que vous êtes pour ou contre la réhabilitation ?»
Ou là, une sorte de tribunal public.
Pas public. En fait, ça soit pas public, en fait. C'est genre, tu reçois un sondage et on te dit, est-ce que bah, vous êtes pour ou contre la rabaisse ? Parce qu'en fait,
ouais, mais il faut connaître la nature des crimes, entre guillemets. Il faut connaître le personnage.
Mais regarde le compliqué, quoi. Tu vois, en fait, la problématique, c'est qu'en réhabilitant des gens bah, que toi, tu n'aurais pas réhabilité parce que, je sais pas, à propos antisémite, j'en sais rien, un truc, toi, tu te dis, non, mais ça, hors de question, en fait. Et ça entache l'image de la plateforme sur laquelle toi-même, tu streams, en fait, tu vois. Et en gros, le fait que Twitch valide ça et que tu continues à streamer sur la plateforme, est-ce que finalement, tu cautionnes pas la décision de Twitch ? Tu vois, c'est ce qui s'était passé à un moment avec, je crois, c'était Tipeee, quand il y avait eu des financements de gens antisémites, machin, des créateurs de contenu qui avaient dit « Non, mais moi, je reste pas sur cette plateforme, c'est hors de question, ils valident ce genre de truc. » En fait, on arrive à ce niveau-là. Et c'est pour ça que la solution n'est pas simple, en fait.
Mais pour faire un tribunal d'autres streamers, il faut que les gens connaissent la problématique, sachent ce que la personne a fait, sachent comment elle se comporte aujourd'hui. Et les streamers, ils ont un boulot,
Oui.
Ils ont d'autres choses à faire.
Justement, Nathan disait, est-ce que pour tous les cas, en fait, on propose un recours ? Eh bien, en fait, ça, c'est une bonne question, Nathan. Est-ce que dans tous les cas, on peut autoriser une demande de recours ? Bah, à partir du moment où on se donne la liberté de répondre bah, non, on ne valide pas, on peut, en fait. C'est ça le truc.
Ouais.
Enfin,
bien
moi,
sûr,
en tout
sauf
cas,
qu'ils disent, ils disent déjà, les termes qu'ils utilisent, c'est les « high severity harms », donc les dégâts sévères. Si c'est pour ça que vous avez été suspendu, bon, bah là, vous restez banni et il n'y a pas de question. Donc. Bref, c'est une question qui est intéressante à mon sens, mais peut-être moins intéressante que le troisième sujet du jour, le troisième sujet important. OpenAI a fait sa première conférence de développeurs et ils ont annoncé des choses assez intéressantes. Les deux que je retiens, c'est ChatGPT-4 Turbo et c'est GPTs. Comment on peut les appeler, les nanas qui dansent derrière dans les années 60. C'est les ChatGPTs de GPT, tu vois. C'est un petit peu comme les Schtroumpfs, mais c'est pour l'IA. Donc, il y a ça. Et il y a aussi... oui, donc c'est ça, ChatGPT-4 et les GPTs. Et du coup, j'explique de quoi il s'agit. C'est la première conférence pour développeurs d'OpenAI. L'année dernière, ils avaient lancé ChatGPT. Ils ne pensaient pas que ça serait aussi important que ça ne l'a été au final. Et ils ont du coup gagné tellement en importance qu'ils peuvent maintenant faire des conférences streamées et tout. Alors, c'était relativement modeste encore, mais c'était une conférence comme en font des grands noms de la tech régulièrement. Et bien, OpenAI a fait ça pour annoncer des nouveautés plutôt orientées vers les développeurs, mais pas seulement. D'abord, il y a GPT-4, donc GPT-4 Turbo, qui a plusieurs capacités supplémentaires. D'abord, le fait qu'on peut lui donner des prompts plus longs. On peut envoyer jusqu'à 128 000 tokens, 128 000 caractères au lieu de 32 000.
Ah, ce n'est pas des caractères, hein, les tokens. Attention.
On est à peu près dans ce genre de...
Non, c'est beaucoup moins. Parce qu'en fait, un token, c'est... par exemple, si je te dis Patrick, c'est peut-être deux tokens en fait. C'est pas étrique en fait. Ça peut être, tu vois, pas forcément un seul. Le découpage en fait, il n'est pas au caractère en fait.
Alors, peut-être pas au caractère, mais c'est l'équivalent qu'ils ont donné. C'est un livre de 300 pages avec 128 000 tokens.
Ouais, donc, ouais, ok.
Ça fait à peu près ça. Il y a la possibilité d'utiliser les API en JSON, donc c'est un petit peu plus pratique pour les développeurs. La possibilité d'avoir des seeds, des graines, enfin un seed, c'est pour avoir des générations qui correspondent d'une seed à l'autre. C'est-à-dire que si on va donner un seed, une base, eh bien, on va pouvoir avoir en fait le même chat GPT pour différentes personnes, et ça se lie à quelque chose dont on va parler après. Moi, ça me paraît assez important, le fait de pouvoir avoir des seeds similaires. On a aussi une mise à jour de la base de connaissances qui amènera ChatGPT à avril 2023, désormais, au lieu de septembre 2021. Donc, il connaîtra tout ce qui s'est passé, enfin, plein de choses qui sont passées jusqu'en avril 2023, et ils vont continuer à l'améliorer. C'est moins cher. ChatGPT pour les API, hein. Mais en gros, c'est, on va dire, 2 à 2,5 fois moins cher. C'est aussi le cas pour GPT 3.5. Il y a des améliorations des modèles vocaux, à la fois la reconnaissance vocale et la génération vocale. L'exemple qu'ils ont donné était assez impressionnant. On a déjà vu des voix assez naturelles. Bah, là, on était presque. Alors, c'était dans leur démo, hein. On attendra de voir ce que ça vaut en conditions réelles. Mais c'était assez impressionnant. Et puis surtout, en dehors de GPT-4 Turbo, il y a donc ces fameux Schtroumpf GPT, les GPT. les Schtroumpf GPT, j'aime bien. Qui sont en fait un moyen de créer un GPT en no-code, simplement en ayant des conversations et avec une petite UI de configuration. C'est un GPT customisé qui a un jeu d'instructions customisé, des connaissances étendues customisées et des actions customisées. C'est une sorte de conditionnement. Vous savez qu'on vous dit souvent dans les IA génératives par texte, les IA conversationnelles, eh ben, il faut parfois les conditionner pour leur apprendre des choses et leur apprendre la manière de répondre. Ben là, c'est un petit peu ça de manière étendue et sauvegardable. Et chacun, du coup, peut créer son IA ou son agent d'IA. Il y en a qui l'ont fait, ils ont donné des exemples, hein, de Zapier, Canva, Code.org, des leçons, ce genre de choses. Mais on peut, ce qu'il faut retenir, c'est que chacun pourra définir son propre GPT, son propre modèle GPT, sa propre personnalité, son propre agent GPT, et le sauvegarder, le partager et le mettre à disposition sur le GPT Store.
Store.
Et ça, c'est assez important.
C'est game changer, vraiment.
Et donc, on va pouvoir créer des IA différentes, les mettre à disposition sur le store. Il y aura du revenu sharing, du partage de revenus entre OpenAI et les développeurs. Et bah, ça, c'est un élément hyper important parce qu'on peut très facilement... L'interface est très intéressante. C'est vraiment une interface simple qui permet de configurer un petit peu GPT comme on le fait déjà aujourd'hui, mais plus facilement. Et ensuite, de le mettre à disposition d'autres personnes sur un store. Alors, comment ça va marcher? Je ne sais pas. Est-ce que c'est à l'utilisation? On doit payer pour avoir accès à un GPT. Ils s'appellent des GPT. Hein. C'est mon chat GPT, mon GPT, ton GPT. C'est pour ça que je dis comme les Schtroumpfs, il y en a qui font différentes choses. Ça me paraît être l'annonce la plus importante. Tu disais Game Changer.
Ah oui. Ah oui, ça c'est...
Dis-moi
ben,
plus.
Non, mais il y a des boîtes qui vont créer des modèles comme ça, enfin des modèles custom à l'infini. Mais surtout, en fait, il y a des clients pour ça, en fait. Bah, typiquement, le Nessie dont on parlait tout à l'heure, bah, en fait, tu peux avoir ton algo, tu lui envoies tes relevés de prix Excel que tu as extrait avec du scrapping sur Internet, tu vois. Tu lui envoies ça et il te dit tout de suite bah, comment tu dois replacer tes produits. Il te génère le bon fichier au bon format, tu l'envoies juste sur Amazon, ça met à jour tous tes prix, tu vois. Donc, non, mais vraiment, en fait, c'est rendre... Moi, ce qui m'intéresse avec ChatGPT, OpenAI, etc., c'est... Bon, on peut se poser un milliard de questions sur est-ce que ça va supprimer les emplois, machin, enfin bon, bref. On va passer ce sujet parce qu'on a déjà débattu mille
oui,
fois.
Oui,
et
on a déjà
il
parlé
est important.
Là, c'est...
Je
ne
dis
sûr,
pas que
sûr.
Ça ne l'est pas, mais ce n'est pas le sujet du jour. En fait, moi, ce qui m'intéresse avec ça, c'est que ça démocratise cet usage-là. En fait, cet usage qui était réservé
à...
Tu veux
dire l'usage
de création de
d'application
boostée à l'IA, en fait. C'est ça, et de customisation, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que des gens qui ne savent pas coder, qui ont pourtant des idées, ont envie de faire des choses, etc., et ne savent pas comment faire, bah, en fait, ça démocratise entièrement ça. Évidemment, ça ne sera jamais... Et encore, je dis jamais. maintenant, je ne veux plus dire jamais. Mais ça sera en tout cas peut-être pas au niveau de ce que pourrait te faire un développeur si tu lui demandes un logiciel sur mesure, etc. aujourd'hui. N'empêche que ça va te permettre, ça va démocratiser vraiment l'usage pour tout le monde, en fait. N'importe qui pourra demain créer son petit GPT et l'utiliser pour ses tâches du quotidien, pour peu importe, en fait, pour peu importe quoi, d'ailleurs. Pour générer des recettes aléatoires avec les ingrédients dans le frigo. Salut, mini Patrick. Le mini GPT's Patrick.
Il y a mon fils qui est malade, qui est passé récupérer oui, son masque de chat. Bon, bonjour à lui.
mais en fait, c'est ça, en fait. C'est que typiquement, demain, tu as une idée, tu dis « Ah, j'aimerais bien créer, je sais pas, moi, j'ai des ingrédients dans mon frigo et j'aimerais un truc qui m'invente des recettes automatiques, etc. avec tout ça, mais j'ai pas les connaissances de dev, les apps qui existent ne font pas exactement ce que je veux, etc. Bah, tu peux construire ça, en fait. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que toi, Patrick, tu vas aller sur ton truc, tu vas build ton GPT spécial recette que tu vas entraîner sur les recettes que tu aimes bien. Et tu vas dire, voilà ce que j'ai comme ingrédient, et dire, tiens, voilà, tu peux faire ça, je te recommande de faire ça, etc., machin, tu vois. Ou pour Fit Patrick, tu veux dire, moi, je veux des recettes qui ne passent pas tant de calories, tant de machin, tant d'apports journaliers, et il va te faire ton truc, tu vois. C'est ça qui est intéressant.
Effectivement, c'est pas que c'était pas possible avant, mais ça nécessitait de vraiment se concentrer, mettre les mains dans le cambouis, c'était pas accessible, exactement comme tu le dis. Je pense que ça va plus loin, parce que là, on pense à des
idées. Pour moi, en fait, attends, juste avant que tu continues, pour moi, ça, c'est rappelle-toi, avant l'arrivée des App Store sur les smartphones, de manière globale, tu téléchargeais des fichiers que tu devais envoyé avec un câble USB, un programme spécifique sur ton ordinateur, c'est des applis Java, sur les vieux Nokia 6600, etc., que pour installer la moindre micro-app qui pouvait éventuellement te rendre service sur ton smartphone. Le jour où les stores sont arrivés, tout le monde savait installer une application. C'est-à-dire qu'on est passé de « c'est un truc de bricolo dans un coin » à « maintenant, il y a un store, tu cliques sur un bouton, c'est installé ». En fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer là. Voilà.
Ouais. Et du coup, chacun va pouvoir créer son GPT. D'ailleurs, le branding, le nom est assez malin, parce que du coup, tout le monde va se mettre à dire « Ah, est-ce que t'as fait un GPT ? J'ai un GPT. Mon GPT, il fait ça. » Et du coup, il s'approprie l'idée de créer une IA customisée pour chacun. Mais oui, je suis d'accord, c'est hyper important, parce que le reste, c'est des évolutions, GPT-4 turbo, il y aura un GPT-5, il y aura machin, qui vont faire toujours mieux, toujours plus. Là, c'est un truc qui est un petit peu différent. Il faudra voir où est leur store, comment il est fait, ça sera sans doute sur leur site, mais l'idée, ça sera d'utiliser tel ou tel type de robot, d'IA, et ça permet à n'importe qui, parce que là on pense à des trucs pour des recettes, mais ça peut créer différentes personnalités d'IA. On parlait de créateurs de contenu, il y a des créateurs de contenu qui vont pouvoir faire leur propre IA en fonction avec leur personnalité, des trucs de personnages qui existent déjà, mais qui seront beaucoup plus accessibles, de personnages différents existants. De personnages de fiction, de personnalités historiques, enfin vraiment c'est à la fois un truc ludique et à la fois un truc qui offre d'autres possibilités, qui est vraiment intéressant. Je précise.
Le jeu de rôle, Patrick.
Pardon ?
Le jeu de rôle, Patrick. Tu vois,
par exemple, le jeu de rôle, tu vas pouvoir. Tu vois.
D&D, tu vois.
Tu veux faire un jeu de rôle, t'as pas d'amis. Tu veux faire un jeu de rôle et t'as pas d'amis. Bah, tu te récupères ton groupe d'aventuriers sur GPT, ton TGPT aventurier. Et tu pourras jouer avec eux. Je précise, OpenAI a mentionné qu'ils étudieraient, il y aura un processus d'approbation pour être présent sur le store. Donc, ils essayeront, j'imagine, de s'assurer qu'il
n'y ait
pas... Voilà. Nazi GPT, ça risque de ne pas passer, quoi. On imagine. Parce que ce n'est pas encore Elon Musk qui est à la tête... Enfin, il n'est plus à la tête d'OpenAI. Donc, on va en parler d'Elon Musk et d'AI. Ouais. C'est un petit peu le souci, on va en parler tout à l'heure. Mais donc... OpenAI cimente un petit peu son rôle de leader dans cette industrie. Ils ont aussi mentionné l'utilisation de DALL-E 3, enfin, il y a tout qui est lié ensemble. La démo est impressionnante. Moi, je vous... C'est qu'une démo, hein. Mais je vous encouragerais à aller voir l'Open Dev Day de OpenAI. Elle sera, le lien sera dans les notes de l'émission. Mais c'était hyper intéressant. Je sens que t'es à fond. Je pense qu'on peut avancer à un autre sujet, mais je me demande si t'as d'autres choses à dire sur cette...
Non, mais c'est un sujet qui me passionne, parce qu'en plus, moi, tu sais, je suis dans l'éducation. Et dans une école qui justement fait de l'informatique, hein. Et pas que d'ailleurs, parce qu'en fait moi je suis même sur la branche transformation justement de transformation digitale, transformation numérique des entreprises, et c'est un vrai gros sujet, tu l'imagines bien en fait, c'est un vrai gros sujet, RH etc, et des entreprises nous contactent justement pour organiser des hackathons autour de l'intelligence artificielle, mais plus côté usage que côté technique, parce que finalement la technique... Enfin, c'est pas nous qui allons la faire en fait, mais vraiment sur ce que ça va leur apporter, comment est-ce qu'ils peuvent l'intégrer, comment ne pas en avoir peur, comment l'expliquer à leurs collaborateurs de pourquoi est-ce qu'il faut l'utiliser et surtout comment il faut l'utiliser, parce qu'évidemment il est hors de question d'envoyer des fichiers clients chez OpenAI, mais comment est-ce qu'on installe un modèle de langage, comment ça marche, comment est-ce qu'on peut le faire marcher sur sa propre machine, etc. en fait. Et moi mes étudiants se forment à ça, vraiment ils ont tous LM Studio sur leur machine, ils ont plein de modèles différents, ils utilisent Mistral AI et plein de trucs. Ils l'utilisent même pour produire et pour faire plein de trucs. Et c'est hyper passionnant. Et est-ce que ça en fait des étudiants moins bons? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça en fait des étudiants qui sont vraiment dans l'air du temps, tu vois. Ouais, mais en fait, j'avais fait un post sur LinkedIn qui expliquait que, parce que c'était l'époque où, je ne sais plus, c'était en avril ou je ne sais plus quand.
Oh, c'est il y a longtemps, oui, au début de ChatGPT, l'IA, quand on disait « Ah, mais il faut tout faire à la main !»
Et moi, j'ai fait « Microsoft vient de dire, c'est à l'époque où ils avaient annoncé qu'ils seraient dans Windows 11. C'était peut-être en septembre, je crois. Qu'ils seraient dans Windows 11. Que ça serait intégré Copilot. Alors, payant ou pas, on n'avait pas l'info à l'époque, mais que ça serait là. Et qu'en fait, je ne pouvais pas interdire l'utilisation de Windows 11 à mes étudiants, en fait. Enfin, je veux dire, tous ceux qui ont des PC, c'est comment en fait. Mais en fait, au contraire, il vaut mieux embrasser ce changement, le comprendre et éviter les écueils plutôt que de... Bah, de voir ça comme quelque chose qui finira par nous remplacer ou je ne sais quoi. Mais en fait, la comparaison que moi, je tiens souvent avec aux parents, par exemple, que je croise et tout ça, ils disent, mais ils utilisent ChatGPT, est-ce que vraiment ils apprennent des choses, etc. Je dis, écoutez, c'est simple. Si demain, je vous demande de planter un clou dans une planche, je vous laisse le choix. Soit vous le faites à la main, soit vous le faites avec un marteau. Vous allez choisir quel outil pour être plus efficace. Ah ben, je vais prendre le marteau. OK, ben imaginez, demain, je vous propose carrément un marteau pneumatique où vous appuyez juste sur un bouton et tout vous en plantez. Hein. Vous pouvez en planter du coup 500 pendant que l'autre en a planté que 10 avec le marteau et celui qui le plante à la main n'a pas planté un seul. Bah, en fait, on est exactement dans ce changement-là. C'est-à-dire qu'on a un outil qui arrive et qui permet de rendre les gens plus efficaces. Donc, arriver en entreprise et savoir gérer 10 projets en une semaine au lieu d'en gérer que un, bah, en fait, le choix est vite fait. On va prendre celui qui est efficace et qui avance. Après, il faut savoir bien le faire. C'est-à-dire que le marteau pneumatique, si on l'utilise mal, on plantera mal ses clous. Mais on est vraiment sur ce truc-là, en fait. Et c'est trop important pour se contenter de dire « c'est pas bien », en fait. C'est vraiment ça, le vrai problème. Mmh. Et nous, on a embrassé ça dès le début. On a même réécrit tous nos projets pour les étudiants en compressant le temps, en modifiant les attendus pour qu'en fait, ils soient beaucoup plus dans la réflexion de la stratégie, tout ce qui tourne autour même du changement, de l'accompagnement des humains, plutôt que sur l'aspect technique pur. Ça ne sert quasiment plus à rien, en fait, de lutter contre ce truc-là. Et on a revu tous nos projets, des projets qui avant duré 3 semaines, durent plus qu'une semaine. Mais ils le font, et ils ont même des meilleurs résultats que ceux qui, les années précédentes, le faisaient en 3 semaines, en fait. C'est incroyable.
Et du coup, cette annonce de GPT customisable que chacun va pouvoir créer, c'est pas que c'est des trucs qui n'étaient pas possibles à faire, mais c'est dans ton analogie. Avant, il fallait planter le clou à la main, et maintenant, GPT te propose un marteau pour pouvoir construire ta cabane avec des outils un petit peu plus modernes. Et donc, d'après ce qu'on a vu dans cette démo, n'importe qui, vraiment, sans connaissances très poussées, il faudra quand même un minimum de connaissances d'informatique générale, pourra construire son propre GPT, pourra concevoir son propre GPT. Donc, accès à plus de gens. Il y avait d'autres annonces hein, qu'on vous passe ici, mais en gros, c'était ça qui était le plus intéressant pour nous dans cette conférence. Ça nous amène à la fin de ces 3 gros sujets du jour. On va passer à la suite de l'actu. Mais avant ça, il y a quelqu'un qui est venu sur iTunes et qui m'a dit, c'est Monsieur Belding qui m'a dit, enfin qui a dit dans sa review un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, qui a dit, alors d'abord, c'est la meilleure veille tech, merci beaucoup, et il dit, il vient de comprendre avec, après plusieurs années, ce qui distingue le Rendez-vous Tech des autres podcasts tech. Il aime aussi Tech Café, que j'aime bien aussi. Il dit, c'est la qualité de la veille de Patrick. Les marronniers sont traités, mais il y a toujours des sujets originaux, bien amenés par l'animateur et surtout accessibles au grand public. Ça me fait hyper plaisir que tu dises ça, Mr. Belding, parce que, enfin, Monsieur Belding, parce que c'est un truc qui me tient à cœur, que je n'avais pas vraiment formulé de la bonne manière, mais qui me paraît important. Par exemple, aujourd'hui, on a parlé évidemment d'OpenAI, on va parler d'autres sujets que vous voyez dans les gros titres un petit peu partout, mais on a parlé aussi de sujets un petit peu moins connus, mais qui sont quand même importants ou juste intéressants. Et ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Il faut avoir, vous savez, quand on a parlé la semaine dernière, enfin, il y a quelques semaines, on a parlé du RISC 5, RISC 5, on a parlé la semaine, une autre semaine, de la philosophie POSI. Aujourd'hui, on vous parle de Project Nessie, du fait que Twitch unbanne les trucs. Ce n'est pas des trucs que vous allez voir partout, mais je pense que c'est des trucs qui sont importants pour comprendre l'industrie de la tech et par extension, comme toujours, le monde, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui, c'est comme l'économie ou la politique, on ne peut pas comprendre le monde si on ne comprend pas la tech et ce qui se passe et les changements qu'on a dans la tech. Et les changements qu'il y a dans la tech, ce n'est pas que Apple annonce un iPhone, ce n'est pas que OpenAI annonce ChatGPT, enfin GPT, les GPT, même si c'est important, c'est aussi des trucs dont je vous parle à d'autres moments. Et donc, je suis hyper content que tu aies noté ça, Monsieur Belding, et j'espère que vous le ressentez aussi en écoutant l'émission.
C'est ça. Moi, je note juste un truc, Monsieur Belding, c'est que tu dis pas que si la qualité des invités aussi joue dans le fait que tu écoutes.
L'exemple de variété, évident. Plutôt. Ça va sans dire. Ça va sans dire. Voilà, si, tiens, sujet complètement annexe, si vous appréciez l'émission et que vous trouvez qu'on a de la qualité chez les invités, dans les sujets, dans la veille, dans le traitement, peut-être que ça veut dire que telle qualité mérite peut-être un petit peu de sous. Allez donc sur patreon.com/rdvtech pour décider si vous voulez soutenir l'émission. C'est important aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui se disent « Ouais, c'est bon, il a des revenus, machin, ça va, pas besoin ». Ce n'est pas tellement ça qui est à prendre en compte. Pour moi, vraiment, ce que j'aimerais que vous preniez en compte, c'est est-ce que l'émission vaut un petit peu de... vaut une compensation financière. Si la réponse est non, il n'y a aucun souci, vous écoutez comme ça, c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Mais si la réponse est oui, j'aimerais que vous y réfléchissiez vraiment, que vous disiez, est-ce que moi aussi, je pourrais participer à cette aventure ? Et un bon moyen de se poser la question, c'est d'aller sur patreon.com/rdvtech pour regarder ce qui est proposé, ce qu'il y a, comment vous le sentez, pour vous inscrire peut-être, pour soutenir d'autres personnes aussi. C'est quelque chose qui est une démarche permanente. Ce n'est pas un truc que... moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier de manière professionnelle, bien plus longtemps comme activité. Ça fait presque 10 ans aujourd'hui que je le fais en tant que métier. Et y a toujours des gens qui partent. Donc, il faut qu'il y ait toujours des gens qui reviennent ou qui viennent, des nouveaux. Et c'est pour ça que j'en parle souvent. Il y a des gens qui me reprochent parfois. Oh, t'en parles beaucoup. Ça fait encore que depuis quelques temps, un petit peu moins. Mais... c'est important parce que il faut que les nouveaux prennent le relais de ceux qui partent et ceux qui partent sont restés un moment, ce qu'ils pouvaient. Si vous le pouvez, si vous pensez que ça vaut le coup, patreon.com/rdvtech. Plus vous aurez la fierté de soutenir, de faire partie de cette famille. Donc un grand merci à vous tous et à vous toutes. Et on continue avec le reste de l'actu. Tencent a pris une décision. Alors, Tencent, il n'y a pas que Tencent. Hein. Tencent, ils ont un outil de chat qui s'appelle WeChat, qui est une super app que vous connaissez peut-être. Mais il y a aussi d'autres outils de chat en Chine. Il y a Douyin, il y a Kuaishou, etc., etc. Eh bien, sans doute à l'initiative du gouvernement chinois, ils ont décidé de demander à tous leurs utilisateurs qui ont plus de 500 000 followers, de révéler leur vrai nom et leur vraie identité. Ça vient de Chine, et forcément, c'est un petit peu problématique par principe. Mais est-ce qu'on peut, en se faisant un tout petit peu l'avocat du diable, imaginer un monde dans lequel obliger les gens qui ont un certain nombre de followers à révéler leur identité serait positif, serait une bonne chose? Ou est-ce que c'est simplement une attaque contre l'anonymat? Et c'est même pas que l'anonymat, parce que je pense que le gouvernement chinois a ses entrées dans l'infrastructure de ces différentes apps. Et donc, s'ils veulent savoir de qui il s'agit, bon, bah, ça ne va pas prendre très longtemps. Mais c'est donc plus de révéler leur vrai nom au public. Je ne sais pas ce que j'en pense de ça. Est-ce que toi, tu peux me dire ce que j'en pense, Cédric? Parce que je suis...
Le problème, c'est que nous, en fait, les gens savent comment on s'appelle. Donc, du coup, tu vois, en fait, je pense que déjà, on est déjà dans l'idée que... finalement, est-ce que c'est dérangeant, est-ce que c'est pas dérangeant, etc. Tu vois, nous, en tout cas, enfin, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, j'ai fait le choix de dire, je m'en fiche. Et puis, j'ai jamais eu des pseudos cool, donc du coup, c'est peut-être pour ça. mais oui, je me pose vraiment la question quand même.
C'est-à-dire que,
parce qu'en fait, le problème, c'est que tu sais, il y a des influenceurs. Parce qu'en fait, est-ce que on va se limiter aux influenceurs?
Bah non, c'est que... toutes les personnalités qui ouais, tu vas penser aux gens. Le truc, c'est qu'à partir de 500 000 followers, généralement, tu finis par savoir qui est derrière. Donc, si oui. La personne n'a pas révélé sa vraie identité, c'est qu'il y a peut-être une raison pour ne pas révéler l'identité. Ouais, on va penser aux gens qui diffusent des fake news, machin. Généralement, ils le font sous leur nom parce que... Voilà. Je ne sais pas, tu vois... Qu'est-ce que ça... Qui ça va impacter négativement? Les gens qui ont une raison... de ne pas révéler leur identité au public, encore une fois, parce qu'en Chine, le gouvernement, il sait de qui il s'agit. Donc, je ne sais pas. Le principe me dérange. Mais le principe me dérange, même si je n'arrive pas à une conclusion ferme, finale. Et peut-être que parfois, enfin, on le dit, parfois, c'est bon de juste dire « je ne suis pas sûr » et de ne pas forcément avoir un avis tranché. Je crois que je suis dans ce cas-là, mais ça me dérange quand même, le principe. Oh, Cédric Deluca est devenu patriote !
T'imagines, merci, incroyable, je suis direct. Sub sur ta chaîne, mais incroyable. Apparemment, t'as dit, je préfère Patreon.
Je préfère Patreon, mais oui, merci beaucoup. Donc, c'est fou, on a l'alerte en direct et tout, c'est incroyable. Je sais pas.
En fait, le problème, c'est que, imagine, demain, t'as, je sais pas, un hacker hyper connu qui, comme on en a connu, hein, qui dévoile justement des failles sur des systèmes, etc., type sur tous anti-Covid, tu vois, en explorant le code et tout à l'époque et compagnie. Il y a vraiment ce... Et ils sont suivis par des milliers de personnes, en fait, tu vois. Parce que on veut savoir la dernière faille, ou même des gens qui s'intéressent à la technique, etc.
S'intéresser si t'as 500 000 followers, généralement, on finit par. Ouais, tu vois, il y a un stade. Tu pourrais, oui, en théorie, tu peux être.
Mais s'ils ne monétisent pas, typiquement, tu vois. S'ils ne monétisent pas.
Non, mais tu peux.
C'est du partage, etc.
On nous dit,
en fait,
c'est
dévoiler
un bon
son identité apporterait quoi?
Non, mais bien sûr, c'est pas du tout. C'est pour ça que ça me dérange. Quel est le but derrière? Tu vois, je me dis, le but est qu'il y ait plus de, qu'on soit responsable de ce qu'on dit, peut-être. On nous dit, par exemple, un Julian Assange chinois dans la chatroom. C'est un bon exemple. Julian Assange, on sait qui c'est, alors que c'est l'une des personnes les plus en danger de l'histoire des leaks, de tous les leaks, quoi. Donc,
de tous les leaks, ouais.
À 500 000, tu vois, il y a un stade quand tu vis ta vie en public où c'est naturellement, ça vient. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent vouloir rester anonymes. Et en fait, c'est ça. En discuter m'a permis d'arriver à la raison pour laquelle ça me dérange. C'est que tu te dis quel est le but. Oui, dire on est responsable de ce qu'on dit, peut-être. Mais je me demande si il n'y a pas d'autre chose derrière. Bon, bref, si vous avez un avis plus clair, venez le partager avec nous sur le Discord, par exemple, on vous écoutera. Un autre truc qui n'est pas 100% clair, mais je me dis bien qu'il y a une raison derrière que je vais détailler avec un jingle dans un instant. Google AdSense va bientôt passer d'un modèle où ils font payer par clic, c'est-à-dire les annonceurs qui font des pubs avant, ils payaient Google pour chaque clic, et bien maintenant, ils vont passer à un modèle où on paye par affichage. Donc, par impression. Alors, évidemment qu'on va payer moins pour une impression que pour un clic, hein, c'est évident. Mais si le truc est adapté justement, bah, ça ne devrait pas faire une énorme différence, sauf que ça lisse la performance. Mais enfin, évidemment, la motivation, c'est évidemment que chez Google, ils disent, mais on aime l'argent. Alors, je ne sais pas si les jingles ne passent pas depuis tout à l'heure, je vais être vraiment énervé.
Je n'ai pas entendu le mais on aime l'argent.
Ouais, mais ça ne marche pas, les jingles ne passent pas. Quel scandale. Allez. Si je fais comme ça, ça passe. Mais on aime l'argent. Même pas.
Non.
Si, je crois. Donc, ça veut dire que depuis le début, les jingles ne passent pas.
L'avocat du diable et le « j'aime l'argent », non.
Et non, et même les jingles, la musique, là. Quand je fais ça, ça fait pas.
Attends, vas-y. Non, là, j'entends pas. Mais on a eu la musique du tout à l'heure.
Et si ça marche, alors je sais pas. Il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui l'ont pas. C'est bizarre. Bref, Google va passer au paiement.
Ah, si pour eux, ça marche, mais c'est pour moi que ça marche pas sur Discord.
Pour toi, ça marche pas, mais je me demande, surtout vous, je m'en fous. C'est pour le podcast
si,
que je veux
jingle,
que ça marche.
L'argent
et j'ai l'impression que ça marche pas pour le podcast. Donc, tu vois, si dans le podcast, ils n'y sont pas les jingles, les gens qui écoutent le podcast vont se dire « Mais Patrick, on n'entend pas ton truc. » Ça fait une heure qu'ils sont en train de s'énerver dans le métro.
Mais
en
tu
train
sais
de
pourquoi
dire, et c'est
tu
pour
sais
ce genre en fait, de produit qui
l'entendent
qu'on paye,
pas.
C'est ça.
Non, mais en fait, c'est ça. Mais en fait, non, c'est parce que ceux qui ne l'ont pas, en fait, c'est parce que justement, soit ils ne sont pas patriotes, et c'est une erreur.
Bah non, mais
soit
patriotes, ils l'ont pas, non.
Ils payent pas assez. Il faut qu'ils passent au palier au-dessus. C'est tout. Et là, ils auraient justement un podcast de qualité.
Oui, un podcast de meilleure qualité. Bon, désolé, je vérifierai ce qui se passe, pourquoi ça ne marche pas. Entre parenthèses, depuis que YouTube a commencé à afficher ses messages « Ne mettez pas d'adblocker, c'est pas bien et on va vous mettre des pubs quand même », visiblement, les adblockers qui ne bloquaient pas les pubs sur YouTube se sont méga fait désinstaller et ceux qui y arrivent se sont méga fait installer. C'est pas très surprenant.
Ouais.
Voilà. Et à propos de YouTube, on parlait la semaine dernière et celle d'avant de l'augmentation des prix de Netflix, de Apple. Et moi, je vous expliquais que bon, bah, vous n'avez qu'à vous désabonner. D'une part, YouTube augmente aussi ses prix de YouTube Premium. On le savait, hein, c'était déjà le cas dans certains pays, c'est le cas dans plus de pays. Et Netflix a annoncé qu'ils avaient fait beaucoup d'argent et qu'ils ont 15 millions d'utilisateurs qui sont abonnés avec leur abonnement pas cher avec pub. Ça représente 30% des nouveaux abonnés Netflix et qui vont augmenter le nombre de formats, le nombre de plans, le nombre de formats publicitaires, genre peut-être qu'il y aura une pub pendant une émission, genre affichée en dessous de votre vidéo ou ce genre de truc en 2024. Donc voilà, si vous êtes frustré de l'augmentation des prix, vous pouvez continuer parce que ça risque de ne pas s'arrêter. Les sociétés qui assurent le soutien des matériels pendant plus longtemps, bah ça continue. Et Microsoft a annoncé qu'ils allaient mettre à jour le firmware des des ordinateurs Surface pendant 6 ans au lieu de 3. Au lieu de 3 ou 4, je ne sais plus. Donc, ils vont continuer à mettre à jour le firmware. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je crois que c'est une confirmation, comme on en parlait avec le téléphone Pixel il y a quelques semaines, confirmation que les standards commencent à augmenter. Là, c'est juste le firmware, parce que le logiciel, ensuite, c'est Windows, donc c'est forcément mis à jour.
Oui.
Mais c'est plutôt une bonne chose, ça continue dans ce sens-là. Parlons un petit peu d'IA et de X. Tu sais quoi, j'ai une question. Est-ce qu'on va réussir à dire du bien, potentiellement, de Twitter Elon Musk ? Ça nous arrive de temps en temps.
C'est vrai.
Il y a une décision qui a été prise par Elon Musk, c'est de remettre en vente les pseudos de Twitter qui ne sont plus utilisés depuis longtemps. C'est-à-dire que si vous aviez un pseudo qui était utilisé depuis longtemps, enfin, qui n'était pas utilisé depuis longtemps, vous risquez de le perdre et il sera remis en vente. Les prix varient. Visiblement, il y en a qui se vendent jusqu'à 50 000 dollars. Enfin, en tout cas, qui sont mis en vente à 50 000 dollars. Je ne sais pas duquel il s'agit, à mon avis. Ils risquent de ne pas trouver acheteur, encore que. Mais ça représente 1,5 milliard de noms de compte qui vont être libérés et mis en vente. Sans doute que la plupart seront très, très, très bon marché. Je crois qu'on a tendance à se dire, parce que on est critique de ce que fait Elon Musk et de la manière dont évolue X, Twitter, à se dire « Ah, mais qu'est-ce que c'est cette connerie, en plus 50 000 $, machin ?» Mais est-ce une mauvaise chose ? Je pose la question à Cédric Deluca.
Ah, vraiment ?
Je peux te donner la réponse, enfin ma réponse si tu le souhaites. On fait ça pour les URL depuis toujours.
Oui.
Ça pose de problème à personne. Pour moi, c'est pas quelque chose de foncièrement problématique. À partir du moment où c'est bien fait, c'est-à-dire que si c'est tu n'utilises pas ton pseudo pendant 2 mois, quelqu'un peut le racheter et usurper ton identité, évidemment que c'est pas
ça,
cool.
En fait.
Mais si tu as un pseudo qui n'est pas utilisé depuis, je ne sais pas moi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, non seulement il faudrait pouvoir le réutiliser, mais en plus, comme c'est un écosystème dans lequel chacun a un nom unique, au bout d'un moment, tous les pseudos sont pris. Ça ne me paraît pas déconnant de le libérer. Tu les préviens la personne en question, s'il n'y a pas de réponse. Si c'est il y a 5 ans qu'il a été utilisé, bon bah voilà, ça va, si ce n'est pas un pseudo qui est utilisé activement. Et en plus, activement, ça doit vouloir dire, j'en sais rien, tu tweets une fois tous les 5 ans. Bon bah si tu veux absolument le garder et qu'il est hyper important pour toi de garder ton pseudo, tu te logines, tu fais un tweet et c'est bon. Je sais pas, ça ne me paraît pas problématique, moi.
Bon, après, moi, le souci, c'est qu'en fait, on va avoir la même chose que pour les noms de domaine, finalement. C'est-à-dire que des gens vont s'amuser à créer plein de comptes pour réserver en fait, des pseudos, ne pas les utiliser, puis les revendre. Oui, je sais. Mais
tu peux déjà créer un pseudo et le revendre à quelqu'un si tu veux. Tu vois, c'est comme...
Oui, bien sûr. Ouais. Je sais pas. En fait, j'ai du mal à... Tu vois, je pense à NPR, par exemple, qui dit « je ne veux plus jamais utiliser X ». Enfin, en tout cas, dans l'état actuel...
Ils tweeteront une fois tous les 4 ans pour garder leur compte.
À moins que
Elon Musk étant Elon Musk, il commence à
voilà,
dire...
En disant,
alors,
ah, mais ok, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus l'utiliser. Ok, très bien. Allez, on le vend. Qui veut NPR ?
C'est ça, exactement.
Ouais, imagine
exactement.
Là.
Alors ouais. Ça, c'est pour ça que je dis, il faut que ça soit bien fait. Mais je peux tout à fait imaginer que Elon Musk étant qui il est, il va dire, ok, NPR, c'est comme ça, ok, on vend le truc NPR et bon.
Ouais,
tout à fait.
Des noms de marques, donc tu vois, tu peux pas. Le problème, c'est qu'en fait, les marques sont pas protégées sur Twitter. Enfin, je sais pas, sur X.
Non mais.
Comment est-ce que ça
pour une marque, encore une fois, si t'es une marque suffisamment importante pour que ton pseudo Twitter soit important. Tu peux payer ton social media manager pour qu'il tweete une fois par an.
Oui,
quoi.
Pour qu'il fasse ça.
Tu vois,
ouais,
même juste en disant, tu vois. Bon, donc, ok. Bon, on n'est pas trop scandalisé par la décision.
Ouais, non.
Et du coup, on passe au journal de l'IA. On va parler d'IA, d'Elon Musk et de X, et encore, puisque Elon Musk a annoncé que xAI, sa société d'intelligence artificielle qui a développé un modèle d'intelligence artificielle, ils ont annoncé sa disponibilité en accès réduit, hein, uniquement en bêta pour certains, pour notamment les utilisateurs de Twitter qui payent la version la plus chère de l'abonnement. Cette IA s'appelle Grok, G-R-O-K. Qu'est-ce que ça veut dire, Grok ? En fait, c'est un terme qui veut dire comprendre, expliquer grossièrement, quoi. En gros, ouais, I grok the meaning of this, ça veut dire je comprends plus ou moins, quoi.
Ouais, alors après, ça vient aussi, je crois que la référence, elle est surtout du guide du voyageur, de H2G2, en fait, du guide du voyageur galactique.
Bah, ils y font même référence dans l'annonce, c'est le troisième truc qu'ils disent, quoi.
Okay,
mais en gros, là où c'est un petit peu plus problématique, c'est que Grok est un modèle d'IA qui, selon Elon Musk, fait mieux que certains dans certains domaines. Enfin bref, c'est un peu vague jusqu'à ce qu'on y ait vraiment accès.
En fait, c'est un GPT 3.7, d'après ce qu'ils disent.
Ouais, bon.
Pas 4, mais voilà.
J'attends de voir. Mais surtout, il est entraîné sur les données de Twitter et Elon Musk dit un truc du genre, je résume, il dit un truc du genre, bon, Grok, il a un petit peu une personnalité un petit peu sarcastique et rigolote. Hein, donc, si vous n'aimez pas l'humour... Si vous n'aimez pas l'humour, c'est peut-être pas pour vous. Ha ha ha. Et forcément, vu le genre d'humour, vous entendez, Guilherme,
voilà.
Vu le genre d'humour qu'apprécie Elon Musk, là, on est forcément préoccupé.
Moi, j'ai hâte qu'ils mettent Grok dans Optimus et qu'ils se mettent à à insulter les gens dans la rue en fonction de leur couleur de peau ou de leur orientation sexuelle, ça va être hyper drôle, je pense. Pas du tout, évidemment. T'imagines entraîner sur les contenus Twitter?
Ouais.
En fait,
on est d'accord. On est ouais. tout Après, à fait d'accord.
Après, ça va être ceux qui ont la pastille bleue, tu vois. Bon, ok, alors là, du coup, on fait confiance ou pas.
Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire ou pas.
Du prêtre, du rabbin, c'est ça, ouais.
Bon.
Moi, j'ai envie de savoir jusqu'à quel point c'est vraiment fait sur les données de Twitter. Parce que...
Il n'y a pas de raison de s'en priver. Non, en fait, hein. C'est un...
Non, mais
c'est un...
Je pense qu'en fait, il doit y avoir une partie, effectivement, qui doit être... Mais pas
ah, bien
100%,
sûr, c'est pas
c'est
que
pas
Twitter.
Possible.
Oui, oui.
Mais voilà. Mais la proportion, en fait, pour moi, elle est peut-être exagérée par Elon Musk, en fait. Sur la quantité vraiment de choses qui ont été apprises à partir de X, en fait. D'ailleurs, on dit Twitter, mais il faut dire X.
Oui. Bah, le truc, c'est qu'ils ont certainement utilisé autant de données que possible, parce qu'on sait que pour ces modèles, plus tu as de données, meilleurs ils sont. Il a utilisé autant que possible comme tous les autres, sauf qu'il a restreint l'accès à Twitter. Et Twitter, bon, bah, c'est beaucoup de contenu aussi. Et il a, j'imagine qu'il a envoyé tout Twitter, autant qu'il pouvait, dans son modèle, alors qu'il a été traité de manière un petit peu différente peut-être, mais même tout Twitter, je ne sais pas si ça représente en proportion quelque chose d'important, mais ça veut dire que par exemple, si tu lui dis tweet comme machin, fais comme Twitter pour telle personne ou dans le style de Twitter, il le fera peut-être mieux que d'autres modèles qui ont moins accès ou dans leur dernière version moins accès à Twitter, et je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Surtout avec... il est un petit peu... Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit « Grok is designed to answer questions with a bit of wit and has a rebellious streak. » Donc, il dit avec un petit peu de... il est malin et il a une tendance un peu rebelle, donc ne l'utilisez pas si vous n'aimez pas l'humour. Bon, bah écoutez, on verra ce que ça donne.
Ouais, c'est
Pendant
ça.
Ce temps, Meta a interdit aux personnalités politiques qui font des campagnes de pub d'utiliser leur IA pour faire de la pub. Donc, au moins, c'est clair.
Ah, évidemment, ils vont pas le faire.
D'autres trucs qui ont à voir avec l'IA, vous avez peut-être entendu parler de cette nouvelle chanson des Beatles, Now and Then, qui a été recréée par IA, selon certains titres. En fait, c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul et Ringo avaient un enregistrement de cette chanson qui s'appelle Now and Then, qui n'était pas assez clean en fait. Il y avait la voix de John Lennon qui était obscurcie par la ligne de piano, je crois. Et ils avaient essayé de la nettoyer pendant longtemps. Ils avaient déjà essayé une vingtaine d'années. Ils n'avaient pas réussi le piano. Dès qu'ils montaient le volume pour l'un, ça montait le volume pour l'autre. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé un outil d'IA pour séparer la voix et le piano et réutiliser la voix ensuite sur des pistes plus clean. Donc, c'est effectivement un truc qui a été rendu possible grâce à l'IA, mais pas du tout un morceau qui a été recréé à partir de rien ou la voix de John Lennon aurait été recréée par une IA ou ce genre de choses. Pas du tout. Donc, c'est pas genre les chansons des Beatles imaginées par IA, même si ça arrivera et ça arrive déjà. Là, c'est complètement différent. C'est vraiment un morceau existant qu'il n'avait pas pu obtenir dans une forme exploitable jusqu'à ce qu'il utilise cet outil d'IA. C'est cool. Moi, je trouve ça sympa.
Ah oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien.
On commence à avoir des incidents également plus problématiques. Il y a au New Jersey, aux États-Unis, je suis sûr que ça a eu lieu ailleurs, mais ça a fait pas mal de bruit, des étudiants qui ont partagé des photos nues et pornographiques, les deux sont peut-être interchangeables, mais des photos nues d'étudiantes existantes, dans laquelle, en fait, la manière dont ils avaient créé ces photos, c'était en prenant le visage d'une étudiante existante, c'est dans un lycée, hein, donc d'une lycéenne existante, et en la mettant, en créant à partir du visage des photos de femmes nues. Et ils sont mis à les partager dans le lycée, évidemment. Ça a créé une grosse polémique, comme on peut l'imaginer. Et ça impose aux parents et aux lycéens et aux professeurs et à l'autorité de l'école d'avoir les conversations sur le sujet. C'est intéressant l'article du Wall Street Journal parce qu'ils disent vraiment que ils expliquent à quel point ça a été une approche d'éducation de parler de ces problèmes et de ces sujets. Évidemment, l'idée de créer une photo de nu d'une personne c'était déjà possible. Hein. On pouvait faire avec du Photoshop, avec du FaceSwap, avec du machin, c'était possible. Là, c'est encore une fois la question de ce qui était possible en, même pas analogique, mais en à la main, est aujourd'hui possible à automatiser de manière très simple. On a parlé plusieurs fois dans cette émission. Et donc, les problèmes que ça pose sont différents. Et j'imagine que tous les lycées doivent commencer à avoir ce genre de problème aujourd'hui. Quoi.
Ah oui, oui. Mais en fait, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que en fait, simplement avant, ça nécessitait une connaissance, tu vois, de Photoshop typiquement, etc., pour faire ce type de montage, évidemment. Mais là, maintenant, tu le fais depuis ton téléphone, dans le creux de ta main, sur place, directement, en fait. C'est ça, en fait, la difficulté. Et c'est ce qu'on expliquait. Finalement, tout à l'heure, c'est-à-dire que l'IA est capable du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, c'est hyper simple de modifier des choses, de truquer des photos, etc., directement depuis son smartphone. Et en fait, ça pose là, de vraies questions sur l'exploitation, tout ça. C'est-à-dire qu'à la limite, avant, quand il y avait des montages Photoshop, tu devais avoir deux images et t'en faisais qu'une. Et du coup, c'était, entre guillemets, assez facile de voir que c'était faux. Et je mets des guillemets parce que certaines fois, c'était sans doute bien fait, tu vois. Mais ça nécessite un skills, enfin voilà. Mais là, en fait, c'est plus complexe. Et surtout, tu vois, quand on parle de Grok tout à l'heure, là, qui répond à des questions, quand Elon Musk va sortir son IA qui va générer des images sans aucun filtre, parce qu'en fait, il veut que tout soit possible de générer, et sans doute même de la pornographie, si un jour ça arrive, c'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, tu donnes en seed le visage d'une personne et tu lui dis, génère-moi même une vidéo ou ce que tu veux, en fait, avec ce truc-là. Et c'est là que ça pose un vrai problème. C'est qu'on perd le contrôle de notre... pas de notre identité, mais...
De notre
en fait,
image,
on perd le contrôle de notre image, en fait, de manière globale.
Et encore une fois, tout ça était possible avant. C'est juste que maintenant, c'est plus facile. Et cette accessible. Automatisation change tout. Ce qui me paraît intéressant, c'est que l'approche, visiblement, de l'école en question dont il parle dans l'article, comme je le disais, était vraiment une approche éducative. C'est-à-dire que, oui, c'est problématique. D'abord, alors il y a des gens qui disaient « c'est scandaleux, inacceptable, il faut qu'il soit renvoyé pour toujours, banni à vie, machin ». Mais j'ai eu l'impression, en lisant l'article, que presque, et ils auraient dû savoir qu'ils ne devaient pas faire ça, mais limite, ils ne se rendaient pas compte à quel point c'était grave, et ils s'en sont rendus compte au bout d'un moment. Genre, il y en a qui ont carrément effacé les photos d'eux-mêmes. Et cette idée que c'est un problème éducatif, un problème d'éducation, pas dans le sens où les parents auraient dû mieux éduquer leurs enfants, c'est toujours compliqué de tout prévoir et de tout. Mais il faut qu'en tant que société, on réussisse à faire en sorte que les enfants comprennent, et même, tout le monde va faire des conneries, hein, je veux dire, d'une certaine manière, c'est inévitable et c'est presque... Je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est normal de faire des conneries et d'apprendre de ces conneries. Mais donc, il faut que l'approche soit éducative et qu'elle inclue tous ces nouveaux cas de figure qu'on n'avait pas jusqu'ici. Et c'est pour ça qu'il faut les connaître et les comprendre. Donc. Bref. Dernier sujet d'IA. Non ? Tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, je disais juste, et oui, je ponctuais, je suis d'accord avec toi.
Un article que j'ai trouvé très intéressant, comme souvent sur Rest of World, qui montre comme les politiciens indiens utilisent l'IA pour créer des messages politiques à destination de populations dont ils ne parlent pas la langue. C'est-à-dire qu'ils s'adressent avec leur voix clonée dans une langue qu'eux-mêmes ne parlent pas à des populations juste avant les élections. Et c'est intéressant parce que c'est à la fois sans doute positif parce que ça leur permet de toucher des populations qui ne recevaient pas leur message avant. Et à la fois, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part une sorte de tromperie ? Parce que ça peut donner à ces populations l'impression, une sorte d'impression de proximité avec la personne en question, qui est une proximité qui est artificielle. Mais l'utilisation est intéressante et cette dualité me paraissait notable, quoi.
Oui, et tu as raison. Et c'est perturbant. En fait, ça me rappelle l'époque de que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais tu sais, de Chirac et sa marionnette au guignol, en fait, tu vois, qu'il avait rendu sympathique.
Et, super menteur.
Voilà, exactement. Et en fait, c'est devenu un personnage sympathique et on est vraiment dans ce truc-là, en fait. C'est-à-dire que ça crée une proximité avec les gens de Chirac à l'époque,
ouais.
Qui pourtant... s'il n'y avait pas eu ça, je ne suis pas certain. Alors, je ne dis pas que c'est grâce uniquement au guignol que Chirac s'est fait réélire, etc. Enfin, bref. Mais y avait ce côté, ça l'a rendu sympa. Et ben, en fait, on est un peu sur ce schéma-là, tu vois. On se sent, comme tu disais, une certaine proximité, certain... je trouve que ça ressemble un peu à ça, en tout cas. Enfin, pas exactement, mais tu vois, ça, on se rapproche un peu de ça, en fait.
Mais pour être clair, ça va encore plus loin là, parce qu'il y a aussi cet aspect de possibilité de toucher des gens. Il y a plein de personnalités politiques qui ne pouvaient pas parler à une immense partie de la population indienne qui ne parle pas anglais ou qui ne parle pas hindi. Enfin, je ne sais plus combien il y a de langues différentes en Inde, mais
oui, c'est une problématique locale forte.
C'est ça.
Comme la Belgique, donc, effectivement.
C'est marrant parce que tu sais, on en rit, mais c'est une qu'à moitié une plaisanterie finalement. Je ne sais pas exactement fonctionne l'État belge à ce niveau-là et de quelle manière on a des gens qui ne parlent pas la langue des personnes qu'elles vont gouverner. Mais non, c'est intéressant. Ouais. Donc voilà pour les sujets que je voulais traiter. Deux petits derniers, allez, pour se faire plaisir. D'une part, Sam Bankman-Fried, vous savez, SBF, le président de FTX, on en parlait la semaine dernière, on en avait beaucoup parlé il y a quelques temps, et il a été jugé coupable de tout ce qu'on lui reprochait à peu près, en tout cas de fraude. 7 cas de fraude et de conspiration pour commettre des fraudes. Alors, la sentence ne sera donnée que fin mars 2024. Mais en tout cas, il est coupable. On savait que ça allait arriver. Il a passé quelques mauvais mois. J'imagine qu'il va passer quelques mauvaises années. Je ne sais pas si on peut dire le pauvre, mais en tout cas, cet ancien golden boy de la Silicon Valley, il ne va pas bien finir. En tout cas, ces prochaines années ne vont pas être super. Autre information, WeWork. Je ne sais pas si vous avez vu la série We Crashed, qui était assez intéressante, mais WeWork a déclaré faillite aux États-Unis et au Canada. Et bon, écoutez, voilà, WeWork, ça semble... Je ne sais pas s'ils vont devoir fermer boutique complètement, mais en tout cas, ils sont en faillite. Je suis surpris que ça ait pris aussi longtemps aux États-Unis et au Canada. Donc, parfois, la tech, ça se passe pas bien.
Ouais.
Et une dernière chose, on a beaucoup discuté de la newsletter ces dernières semaines, notamment sur le Discord, dans des éditos et dans la newsletter elle-même. Je suis assez content de la formule de la newsletter telle qu'elle est aujourd'hui, qui est une sorte de compagnon aux émissions, qui vous donne les informations principales à retenir essentiellement. Mais il y a aussi une partie, une sorte de liste de lecture dans laquelle je mettais des sujets qu'on avait déjà traités dans l'émission. Je crois qu'il y en aura encore peut-être certains, mais aussi d'autres qu'on n'a pas directement traités dans l'émission et des sujets qui sont intéressants. Je veux en fait, à partir de maintenant, encore plus qu'avant, on cherche toujours, on fait évoluer les newsletters, mais avoir des sujets qui sont moins nombreux, mais tous intéressants. Que si vous choisissez de cliquer sur un lien dans cette liste de lecture, dans les articles plus longs que je mets en deuxième partie de newsletter, eh ben, ça soit toujours intéressant pour une majorité d'entre vous. Et je vais en mettre, je crois, 3 ou 4 aujourd'hui, aujourd'hui, pour la newsletter du vendredi, il y en a un qui est un témoignage du CEO de Pebble, qui est un concurrent de Twitter qui s'est cassé la gueule il y a quelques jours, quelques semaines. Et il explique pourquoi, avec vraiment une... il parle de son échec avec une candeur et vraiment sans honte. Il y a des choses hyper intéressantes dont il parle, donc... Le fait que la gentillesse et la sécurité, ça suffit pas. Le fait que l'algorithme, le flux algorithmique aurait été important. C'est vraiment hyper intéressant. Il y a un autre article qui liste les réactions des différentes sociétés qui développent des IA aux problèmes de copyright, et ils lisent tout ça les unes après les autres et leur approche avec des angles hyper différents, vraiment la manière dont ils pensent à la relation entre l'IA et le copyright. Il y a un article également sur la manière dont les fabricants, les fondeurs de puces réfléchissent à la suite du silicone, comment on va pouvoir faire pour continuer à améliorer les puces. Il y a des histoires de diamants, il y a des histoires de verre ultra pur, d'arsédure de bore, enfin, il y a vraiment des trucs hyper intéressants. Et enfin, un lien vers une société, le travail d'une société qui s'appelle Fusus, je ne sais pas comment ça se lit, Fuse US, qui réunit les caméras de surveillance d'entités privées et publiques dans différentes villes des États-Unis pour les mettre à disposition des services de police. Et c'est une sorte d'agrégation de toutes les caméras de surveillance qui sont d'accord pour faire partie du service. Et là encore, l'approche de l'article est intéressante parce qu'ils disent que ça peut peut-être rendre service parfois, mais il faut que les citoyens soient au courant surtout. Et c'est le cœur du truc. L'article en lui-même donne plein de détails, il est hyper intéressant. Tout ça sera dans la newsletter et je continuerai à l'avenir à vraiment, à la limite, s'il n'y a pas de sujets qui sont suffisamment intéressants pour être dans la newsletter, bah je ne les mettrai carrément pas. Il n'y aura pas cette section la semaine où il n'y a pas de sujet vraiment intéressant. Cette semaine, il se trouve qu'il y en a 4. Généralement, je pense qu'il y en aura au moins 2, 3, 4, pas plus que ça pour la tech. Et je vais l'envisager de cette manière à l'avenir. Donc, je pense que c'est un bon équilibre entre le compagnon avec les sujets principaux, si peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'écouter l'émission, machin, et des trucs en plus pour la newsletter. Évidemment, le lien vers la newsletter pour s'abonner est dans les notes de l'émission ou sur notepatrick.com. Merci Cédric d'avoir passé cette... combien de temps ? 1h30 avec moi ? Oh ! C'était ouais. Long et tu n'as pas mangé.
Mais passionnant. Non, mais ça va, t'inquiète.
Ça va ? Ok. Dis-nous où on peut te retrouver quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech avec moi.
Sur le Discord de Patrick, sur...
sur le Twitch de Patrick, sur le YouTube, ouais, sur on est en live sur YouTube.
Ça. Sur le Blue Sky, ouais, sur Blue Sky, c'est Cédric Deluca aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Sur X, Cédric Deluca. J'ai pas mal de projets qui arrivent, mais pour le moment, c'est un peu en veille. C'est la rentrée, en fait, pour moi, se termine bientôt. C'est long, la rentrée universitaire.
Je comprends.
Et donc, du coup, ouais, je suis un peu occupé, donc c'est un peu complexe, mais je vais reprendre bientôt, moi aussi, les lives et tout ça. Et voilà, donc du coup, bah, si vous me suivez sur ces réseaux, vous en saurez plus.
Magnifique. Merci beaucoup à toi d'avoir été avec nous, Cédric. Pour ma part, c'est NotePatrick un petit peu partout, sur tous les réseaux, plus ou moins. Vous avez les liens dans les notes de l'émission. Et patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Si vous appréciez ce que je fais, ce qu'on fait, la manière dont on traite l'actualité tech, un mélange savant et j'espère un bon moment passé à parler des gros sujets et des sujets qu'on trouve peut-être un petit peu moins ailleurs grâce à, comment est-ce qu'il l'a dit, Monsieur Belding ? Il a dit la qualité de la veille de Patrick, c'est peut-être mon plus gros atout. Ça demande beaucoup de travail, donc si vous l'appréciez, patreon.com/rdvtech. Je vous en remercie très chaleureusement et on va voir comment ça se passe pour le jingle de fin. J'espère qu'il va passer. Je vous dis au revoir et je vous fais des bisous. Ciao, ciao.